Bonjour à tous. Ah, il y a des personnes qui doivent sortir encore, on va les laisser sortir. Bon, ok. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 148. Psaume 148. Seigneur, merci pour ta parole et pour tes bienfaits qui sont nombreux. Merci pour ta fidélité, Seigneur, et pour Jésus-Christ qui est venu vers nous, Seigneur, et qui nous a révélé le Père et son amour. Et nous voulons te remercier, Seigneur, de ce qu'il sera prêché à toutes les nations, Seigneur, et toutes les nations entendront parler de Christ. Même si notre cœur est lourd, Seigneur, face à ceux qui se détournent, Seigneur, nous savons que toi, tu as des plans qui sont merveilleux, Seigneur. Et nous voulons te prier encore pour nous aujourd'hui, et pour ceux qui nous entourent, Seigneur, et qu'ils puissent te chercher et te voir, Seigneur, et te trouver. Nous savons que quelque part, toutes les nations et tout le monde un jour te verra dans l'éternité, Seigneur, mais probablement pas de la même manière, Seigneur. Soit comme juge et pour ceux qui auront cru comme sauveur. Et nous savons aussi, Seigneur, qu'il y aura un éloignement et qu'il y aura des souffrances, Seigneur, aussi. Et nous te prions ce matin, Seigneur, qu'aucun de nous ne se perde, Seigneur, dans ces souffrances, qu'elles soient des souffrances actuelles ou qu'elles soient des souffrances éternelles, au-delà de cette vie, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu témoignes encore de ta bonté, Seigneur, au monde et aux nations, en dépit des péchés, Seigneur, en dépit des atrocités, en dépit des folies humaines, Seigneur, toi tu continues à témoigner de ce que tu es, Seigneur. Et tu fais lever ton soleil sur les justes et sur les injustes, Seigneur, et tu fais pleuvoir aussi sur les justes et sur les injustes, Seigneur, et te remercions pour ta fidélité dans ces choses. Te remercions de ce que tu n'es pas un Dieu de colère dans le sens où tu perdrais le contrôle de toi-même, Seigneur, mais tu es dans un Dieu de colère dans le sens où tu es un Dieu juste, Seigneur, qui rends à chacun selon ce qu'il mérite. Et tu connais la situation et le cas de chacun et de chacune, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour cela aussi, Seigneur. Même si une telle science nous dépasse, Seigneur, nous voulons te remercier pour ces choses. Amen. Voilà, et avant de lire ce psaume 148, j'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord, plus ou moins, avec ce que notre frère vient de dire. Et quelque part, quand il parle de Sodome et de Gomorre, hein, c'est quelque chose de très vrai. Et je crois un des plus grands dangers pour l'Église d'aujourd'hui, eh bien, c'est de se laisser enfermer en Occident. C'est un des plus grands dangers parce qu'elle a une mission à accomplir. Et cette mission, c'est d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Et Jésus-Christ a dit, cet évangile sera prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Et nous pouvons être sûrs que cet évangile sera annoncé à toutes les nations et qu'alors viendra la fin. Et je crois, même si nous savons, hein, nous entendons parler là, des menaces et autres, mais un des plus grands dangers, je crois, pour l'Église d'aujourd'hui, c'est de se sentir 100% solidaire de l'Occident dans ses actions. Même si nous nous réjouissons de la vie que nous avons, de la prospérité que nous avons, de la liberté que nous avons, ces libertés ne sont pas garanties. Ou alors, peut-être, que
que nous pouvons acheter notre liberté au prix de certains compromis. On pourra peut-être revenir là-dessus. Mais souvent la logique de Dieu n'est pas notre logique. Et ce que nous croyons être notre salut n'est pas notre salut. Et comme souvent Israël pensait que son salut était en Égypte, vous savez, Israël, avec leur désobéissance, ils voyaient les Babyloniens arriver, tout ça arriver, ils ont dit « Allons en Égypte !» Et Dieu a dit « Non, 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 votre salut n'est pas en Égypte. » Mais Dieu avait préparé des choses à Babylone pour ceux qui le suivraient. Mais bon, je crois que ce serait tout un autre sujet. Mais de toute façon, nous serons contraints, certainement, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, à faire face à ces choses. Et à savoir que nous sommes dans un monde de plus en plus hostile. Et, juste pour développer un petit peu, un monde qui, par exemple, quand on considère actuellement les États-Unis, cette nation qui a tant reçu de l'Évangile, bien un monde où il y a de plus en plus une élite qui est de plus en plus soit contrôlée ou favorable quand notre frère parlait de Sodome et Gomorre, et la Bible a dit, oui, ce sera comme Sodome et Gomorre, des élites qui sont de plus en plus favorables à des programmes viennent souvent des mouvements LGBT, hein. Vous devez tous savoir ce que c'est. Et notre salut n'est pas parmi ces gens-là. Notre salut n'est pas avec ces gens-là. En fait, nous sommes dans un monde qui est trompeur, parce que quelque part, les chrétiens, on veut utiliser les chrétiens, et c'est ce qui a déjà été fait il y a quelques années déjà. Je pense en particulier à la période où, juste les années 2000-2001, où finalement on a utilisé les chrétiens, je pense aux chrétiens américains en particulier, pour faire croire qu'il y avait en quelque sorte une guerre entre les chrétiens, surtout aux États-Unis. On leur a trouvé un bon représentant, quelqu'un qui a bien voulu se faire passer pour un bon gentil chrétien. Et voilà, une guerre a été lancée en réponse, bien sûr, à ce qu'on a appelé le 11 septembre. Et donc il y a une volonté, je crois, aujourd'hui, de montrer qu'il y aurait une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Mais il n'y a pas de guerre entre les chrétiens et les musulmans. Il y a un monde occidental qui essaye d'imposer ses valeurs au monde entier. Et le monde entier ne veut pas de ses valeurs. Donc un monde occidental, non chrétien, qui essaye d'étouffer le christianisme en Occident, qui essaye d'imposer ses valeurs sur tout le monde, et souvent d'une manière insidieuse et non démocratique, et qui aussi essaye de les exporter avec une grande persuasion médiatique, mais aussi, de plus en plus souvent, et ils seront contraints de plus en plus souvent à le faire, avec une certaine violence. Et les chrétiens ne doivent pas être complices ou solidaires de ces choses. Ça n'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Et notre sécurité est en Christ. Notre sécurité n'est pas derrière tel ou tel politicien. Et si nous voulons voir Dieu qui fasse des miracles dans nos vies, eh bien c'est avec Christ qu'il faut rester attaché. Alors, j'aimerais lire avec vous dans le psaume 148. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau si quelqu'un était volontaire pour faire ça? Il nous est dit, louez l'Éternel, Dieu haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ces anges. Louez-le, vous toutes ces armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, loué à l'Éternel. Et j'aimerais ce matin vous parler du langage de la création, du langage de la création. Et je crois que c'est un langage que nous avons oublié, c'est un langage que nous ne connaissons plus. Et je crois que nous ne savons plus pourquoi toutes ces choses qui sont décrites ici ont été créées. Et en fait, elles ont été créées, c'est écrit très simplement, elles ont été créées pour servir Dieu et pour louer Dieu. Et quelque part, elles sont à son service, et nous-mêmes, nous devrions être à son service. En tout cas, c'est ce que Dieu attend. Ici, il y a une liste extraordinaire, et qui va même jusqu'aux êtres humains, mais qui inclut finalement toute la création. Verset 1, « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il a commandé et ils ont été créés. » Et depuis à peu près, allez, on va dire à peu près depuis les années, depuis 150 ans, 100 ans, 150 ans. Alors tout cela a commencé en Angleterre, hein, ce pays qui pourtant avait reçu tant de l'Évangile. Oui, hein, il y a des personnes qui ont trouvé, il faut dire que c'était un des pays les plus avancés scientifiquement quelque part à l'époque. Mais il y a des personnes qui ont eu l'idée finalement que tout n'avait pas été créé par Dieu. Mais pourtant c'est une idée qui vient naturellement à l'homme quand il est confronté à la nature, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand que lui. Et tous les peuples, toutes les civilisations du monde ont eu quelque part cette idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et quelque chose qui probablement nous a créé ou est à l'origine de notre vie. Alors bien sûr, il y a une paganisation de ces choses et on invente diverses divinités, mais il y a quand même toujours eu cette idée que l'homme était plus petit que ce qui l'entourait, qu'il y avait des puissances et des forces surnaturelles. Et puis grâce à l'essor du christianisme, même si c'est sous une forme souvent bien imparfaite, eh bien, il y a l'idée qui s'est imposée peu à peu dans nos pays, mais aussi, quand on parle de l'islam, aussi en terre d'islam, puisqu'il faut bien désigner les choses comme cela, qu'il y avait un Dieu créateur, un seul Dieu créateur de toutes choses. Et cela a certainement a pris du temps à s'imposer, mais cela a quand même changé la face du monde. Et nos pays se sont développés, et en fait, la modernité, quand on parle de la modernité en Occident, parce que souvent on veut opposer christianisme et modernité. Vous savez, aujourd'hui, ben oui, là, bon, le christianisme, ben non, hein, c'est... Mais en fait, la modernité en Occident s'est créée, s'est développée dans un contexte chrétien. Un contexte chrétien imparfait, souvent très imparfait, mais dans un contexte où on avait quand même l'idée d'un Dieu qui existait. Et même des gens aujourd'hui qu'on qualifierait comme athées, Descartes ou Voltaire ou Kant ou autres. Beaucoup de ces grands philosophes qui ont été à la base de beaucoup de choses en Occident, ils se disaient quand même, il y a quelque chose. Je crois que c'est Voltaire qui disait, je ne puis pas croire que cette horloge ait été faite sans horloger. Je ne peux pas croire que cette horloge ait été faite sans horloger. Et beaucoup, par exemple, des fondateurs de la nation américaine, les Thomas Jefferson et autres, et beaucoup d'autres étaient des gens qui quand même... Même s'ils n'étaient probablement pas à 100% chrétiens, ils se disaient, oui, il y a quand même un Dieu qui existe. Il doit y avoir un Dieu qui existe. Oh, pas forcément 100% des gens, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et l'athéisme, aujourd'hui, est vraiment un phénomène très contemporain. Quelque part récent, et surtout l'athéisme radical, l'athéisme qui ne supporte plus du tout d'entendre parler qu'il y ait un Dieu. Il y a encore quand même quelque temps, je crois dans les années 60 ou 70, au moins dans les pays qui n'étaient pas sous domination communiste, on pouvait discuter, on pouvait parler, on pouvait même chercher ensemble. Et ça devient de moins en moins possible. Parce qu'il y a un radicalisme athée, intolérant, peut-être pas toujours violent, mais qui a une certaine intolérance quand même à la discussion. Et en fait, nous ne savons plus discuter. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui grandissent dans nos écoles et qui finalement, ils ne savent pas ce qu'ils croient. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Et je crois qu'ils seraient incapables de dire exactement en quoi ils croient. Ou alors, s'ils seraient capables de le dire, ils n'y réfléchissent jamais ou quasiment jamais. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il dit l'homme moderne? Qu'est-ce qu'il dit l'homme moderne sur son origine? Je me souviens, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, mon père m'avait acheté des livres sur la préhistoire. Des livres sur la préhistoire. Et moi, j'étais passionné de ça. Et surtout, il y avait les petites figurines avec tous les animaux préhistoriques. C'est impressionnant, hein. Quand vous avez un tyrannosaure dans vos mains, c'est formidable. Et vous avez le tyrannosaure et le diplodocus et tout ça. Et j'aimais tellement ça que j'avais une tante qui était institutrice qui m'avait demandé de faire un exposé pour ses élèves qui avaient le même âge que moi. Et donc, moi, j'aimais beaucoup ça. C'était formidable. C'était formidable. Et pourtant, je ne réfléchissais pas très loin. C'était ces monstres, sont formidables, c'est merveilleux. Même quand j'étais petit, il y avait Casimir. Non, mais vous connaissez Casimir? Oh, c'est le gentil dinosaure, machin truc. Et c'est une manière très sympathique, là, d'enseigner. Mais il y a quand même un enseignement derrière. Est-ce que j'ai... Une chose à laquelle je ne pensais jamais, ou quasiment jamais, quand j'avais tous ces dinosaures avec lesquels... Ou alors je ne réfléchissais pas beaucoup à ces choses, parce que j'avais quand même un livre qui exposait tout le processus, de manière vulgarisée, hein, pour des jeunes enfants. C'est le passage, la complexité du passage. Moi, je m'imagine... Mes dinosaures, je ne les voyais jamais se transformer les uns en un qui... Vous voyez jamais un Compsognathus qui est tout petit, la taille d'un poulet, devenir un diplodocus, j'y pensais jamais. Vous savez, un diplodocus, c'est les grands qui font, qui faisaient dans les 50 tonnes ou 80 tonnes, tout ça. Toi, peut-être tu y penses. Mais je crois que les personnes ne réfléchissent pas à la complexité. Et je me souviens, j'avais ce livre sur les dinosaures, et puis on voyait quand même, il y avait quand même l'idée, oui, la Terre, une boule de feu, etc. Et puis ça s'est mis en place un peu à la fois, ça a même pris beaucoup de temps. Et puis finalement, ça s'est un peu stabilisé, quoi. Et puis il y avait de l'eau, puis il y a la Terre qui est apparue. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi ou comment. On ne sait pas non plus pourquoi ça s'est fait là, ici, et pas vraiment ailleurs, parce que ça ne s'est pas fait ailleurs, a priori. Hein? Personne ne peut prouver que ça se soit fait ailleurs. Si on est scientifique, on doit admettre, on n'a pas de preuves. D'accord? Et donc, dans tout cet amas d'eau, etc., etc., il y a des choses qui se seraient développées. Et puis, un jour, il y a eu une sécheresse. D'accord? Il y avait ces poissons. Il y a les poissons. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas trop le processus, je me souviens dans le livre, comment est-ce qu'on arrive aux poissons. On parle de toutes petites cellules, mais... Et donc, vraiment, pour une raison ou une autre, il y a des poissons qui se développent de ça, et même d'autres formes de vie marine. Et, puisque tout doit fonctionner dans ce schéma selon le hasard et ce qu'on appelle la nécessité, il y a la nécessité, eh bien, un jour, ce poisson, faisant face à une sécheresse, et c'est même pas qu'un spécimen de poisson, c'est tout un processus très, 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 très long, il faut que ce soit très, très long, eh bien, il est face à cette sécheresse. Donc, pour survivre, ces différents spécimens, il va bien falloir qu'ils s'adaptent à la vie terrestre. Et sur des milliers d'années, je crois même des millions d'années, en fait, on ne sait pas, personne ne sait, parce que personne n'a sa caméra Hitachi pour aller remonter dans le temps et filmer ce qui s'était passé. Mais quelquefois, on a l'impression que quelqu'un a vraiment pris une caméra et qu'il a été filmer les choses. En fait, personne ne sait exactement. Personne n'est remonté dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne peut pas remonter dans le temps. D'accord? En fait, on fonctionne tous sur des squelettes, différents squelettes qu'on trouve dans le sol. On essaye de reconstituer les choses. Mais quand on voit les livres de vulgarisation évolutionniste, on se dit que quelqu'un a pris sa caméra et qu'il a été filmé ce qui se passait. Mais en fait, non. Voilà. Et donc, ce cher poisson, d'accord, faisant face à cette sécheresse, ou plutôt cette espèce de poisson, parce que c'est pas juste un poisson, dans le livre, il y avait un seul poisson, mais c'est... Ça se passe sur beaucoup, beaucoup de temps. Donc finalement, il y en a quelques-uns, c'est les heureux élus, qui arrivent, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui meurent. Il y en a beaucoup qui meurent. Et il y en a quelques-uns qui finalement, ils arrivent à survivre, et au fur et à mesure, les nageoires se transforment. Ça prend du temps, ça se transforme, ils y arrivent, ils survivent, ils arrivent même à se reproduire. D'accord ? Alors qu'il semble qu'il y a quand même une règle scientifique qui dit que les caractères acquis par des animaux ne se transmettent pas, je crois, aux autres. Mais, bon. Mais en tout cas, finalement, il y a des pattes qui apparaîtraient. Là, déjà, c'est quand même beaucoup de choses. Et donc là, jusque-là, je comprends la nécessité. D'accord ? Même si ça paraît un peu quand même tiré par les cheveux. C'est pas exactement comme la citrouille qui devient carrosse à un coup de baguette magique, mais quand même, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui se produire, d'accord ? On ne voit pas des poissons, bien sûr, en cours de transition. Mais je comprends quand même l'idée, face à la sécheresse, il faut qu'il y ait des nageoires qui se transforment en pattes. Mais le plus extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'à partir de ce seul individu, d'accord ? Ce poisson extraordinaire qui se serait transformé en animal amphibie, c'est-à-dire qu'il vit à moitié dans l'eau, à moitié sur la terre, mais qui a quand même des pattes. Et puis là, je ne vous parle pas de toutes les transformations intérieures au niveau de ce qu'on appelle les branchies qui deviennent des poumons, etc. Donc c'est quand même très complexe. Et donc, à partir de ce seul animal, ce seul animal va faire face à la nécessité, visiblement. Parce que normalement, les animaux, ils ont une certaine stabilité dans la nature, d'accord ? Okay, les chats ne deviennent pas Les chiens, il y a une certaine stabilité, ils sont dans un écosystème, ils sont heureux, ils s'épanouissent dans cet écosystème. C'est ce que je comprends. Mais donc, ce seul animal amphibie qui a survécu va donner, va finalement, sur des milliers d'années, se transformer et il va donner, parce qu'il faut bien parler de transformation, même si elle prend du temps, et il va donner aussi bien un tricératops. Vous voyez ce que c'est un tricératops? Vous ne savez pas ce que c'est un tricératops, non? Alors, un tricératops, ça ressemble à... C'est un animal à quatre pattes, d'accord? C'est très gros, ça a une très grande queue, d'accord? Et puis ça a une tête, c'est pas comme un rhinocéros, mais il y a trois cornes. Il y a trois cornes et une arête, d'accord? Ok? Mais ce même animal a aussi donné... il s'est aussi transformé, donc ça ne devait pas être le même, hein, c'était des descendants. Certains de ses descendants sont devenus des tricératops, d'autres sont devenus des stégosaures. Hein, vous savez ce que c'est un stégosaure? D'accord. Donc stégosaure, c'est une petite tête. Il faudrait que j'ai des images. Mais c'est quand même très différent, d'accord? En particulier, il y a la queue qui est impressionnante, avec des pointes, quoi, pour se défendre, d'accord? Donc c'est pas du tout la même queue, hein. Mais ce même animal, il a aussi donné le diplodocus. D'accord? Le diplodocus, ça vous savez, c'est très gros, ça a une tête très, très haute, d'accord? Très grande tête, c'est pire qu'une girafe. Hein, voilà, et puis une très grande queue, ça fait dans les 50 tonnes. Il a aussi donné naissance à un tyrannosaure. Ah, donc tyrannosaure, c'est les grandes dents et ça mange tout, ok? Ça a donné naissance à un iguanodon. C'est tout ce dont je me souviens. Hein. Et puis il y a des tas d'autres, un Compsognathus qui est tout petit. Et puis pour le reste, vous regardez Jurassic Park, il y en a quelques-uns. Vous prenez le livre de vulgarisation dans votre bibliothèque. Mais donc, je me dis, même si je comprends le processus, qui pour moi, je n'y crois pas, hein, du poisson qui devient animal amphibie, où j'ai du mal à y croire quand même, à quelle nécessité cet animal qui a survécu, qui est sorti de la mer, qui a survécu, à quelle nécessité il a fait face, visiblement à des nécessités très diverses, pour devenir d'un côté animal carnivore, d'un autre côté diplodocus, un autre un petit truc du... D'accord? À quelle nécessité d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui a pris, j'allais dire? D'accord? Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. D'accord? Qu'il faut continuer et tout ça va se transformer, va devenir un jour. Enfin, il y en a une grande partie qui vont disparaître parce qu'il y a un cataclysme. On ne sait pas non plus exactement ce que c'est le cataclysme dans la pensée évolutionniste. Il y a un cataclysme qui va arriver, qui va détruire la plupart. Il y en a une partie qui vont survivre et parmi ces dinosaures, alors on ne sait pas. Je sais qu'à une époque c'était le Compsognathus qui était à l'origine des oiseaux. Transformé en oiseau, d'accord? Et alors maintenant, ils ne sont plus d'accord. Et donc il paraît que maintenant que même les gros dinosaures, les tyrannosaures, voilà, ils auraient eu des plumes déjà. Donc on ne sait plus trop. Et ils n'ont plus l'air de trop savoir, tous, de ne pas tous être d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord. Ça, il faut vous rassurer, ils ne sont pas tous d'accord. D'accord. Mais donc, tout ça, ces animaux, de ces animaux, bien, il y en a certains qui... Et on ne sait pas exactement pourquoi, est-ce que c'est pour survivre ou autre. Mais il y a des ailes, d'accord, leurs pattes. Donc vous avez vu les pattes du tyrannosaure, vous avez vu, hein. On ne sait pas si c'est le tyrannosaure ou autre. Et qui s'est transformé en oiseau. Ok? Mais encore là, c'est très difficile quand même à concevoir et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ok? Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Parce que quand même, moi je me souviens bien quand, et je suis désolé pour mon texte, après on y reviendra quand même, mais il faut expliquer quand même ce que les gens croient. Les personnes ne savent pas ce qu'elles croient. Elles ne réfléchissent pas à ce qu'elles croient. C'est quelque chose qui est socialement acquis. Ils ne réfléchissent pas. Je crois qu'il y a peu de gens qui, voilà, sont en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça... Voilà. Donc ce n'est pas tout. Il y a ces gros dinosaures terrestres qui sont devenus des oiseaux. Mais donc, il y avait aussi, et on le sait quand même, puisqu'on a des squelettes, excusez-moi pour le temps que ça prend, mais... Je me souviens, quand je me jouais, j'étais petit, je jouais avec ces animaux, il y avait aussi les reptiles volants. Bon, ça, vous avez tous vu aussi, hein. Ouais, il y avait les pteranodons, je crois que c'était un renforincus. Il y avait quand même pas mal d'espèces de reptiles volants. Hein. Je me souviens, sur le livre, j'aurais pu le prendre avec. Alors, je me dis, et je crains malheureusement que peu de personnes se posent vraiment la question, d'où est-ce qu'ils viennent, eux? Parce que, d'accord, on a compris, il y a ce poisson qui est devenu animal amphibie. Alors, ces reptiles volants, d'où est-ce qu'ils viennent? Et je me souviens, sur mon livre d'images, tout ça, il n'y avait pas de processus qui indiquait d'où ils venaient. Et d'où ils viennent? Est-ce qu'ils sont tombés du ciel? Non, ils ne sont pas tombés du ciel, tout vient de la mer. D'accord? Mais alors, est-ce que c'est cet animal amphibie qui est passé du poisson à l'amphibie qui serait devenu un de ces reptiles volants? D'accord? Et je ne vous raconte pas les problèmes au niveau du squelette. Hein, déjà, on voit sur les livres d'images, on voit l'extérieur, mais on ne voit pas tous les problèmes de squelette et les os, les différentes dimensions. D'où est-ce qu'ils viennent? D'où est-ce qu'ils viennent? Et je crois qu'il n'y a pas de réponse très claire. D'où est-ce qu'ils viennent? Et je me serais attendu personnellement que ce soit ces reptiles volants qui se transforment en oiseaux. Mais on sait que ça n'est pas ça. A priori, ils ont tous disparu, mais on ne sait pas comment ils ont disparu. Voilà. Mais ça n'est pas tout. Parce qu'après, il y a le passage des reptiles aux mammifères. D'accord? Vous savez que les reptiles, je crois que c'est quasiment 100%, je crois que c'est la définition du reptile, ils pondent des œufs. D'accord? Ok? Tu me dis si je me trompe, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis une personne simple qui essaye de réfléchir. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Tandis que le mammifère, ça ne sort pas dans un œuf. Ok? Il y a le reptile sans froid, les mammifères sans chaud. D'accord. Enfin, il faut encore toute la transition. Bon, après, il y a l'homme, bien sûr. Alors, l'homme descend du singe. Mais avant ça, là, on réfléchit quasiment jamais. C'est avant le singe, qu'est-ce qu'il y a? Parce que le singe ne vient pas directement du poisson. D'accord. Donc, je crois qu'il y a des espèces de lémuriens, des petits... ça ressemble pas à un écureuil. Ce serait mignon de dire qu'on descend des écureuils. Mais quelque part, c'est quasiment ça qui est dit, mais ça, on n'en parle jamais. On parle, bien sûr, du singe et de l'homme, parce qu'il y a une certaine ressemblance, quelque part. Mais avant, on n'en parle jamais, ou quasiment jamais, ou presque pas, quoi. D'accord? Presque pas. Il ne faut pas trop en parler, parce qu'il faut parler de ce qui est à peu près crédible. D'accord? Mais avant le singe, il vient bien de quelque part. Donc, il doit venir de ces petits animaux, et même peut-être de trucs qui ressemblent à des rats. Mais ça, non, ça, c'est quand même pas... Attendez, si on vient du rat, c'est pas... C'est pas la même chose. Okay. Okay. Mais ça n'est pas tout. Mais non, mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. D'accord. Parce que dans le processus évolutionniste, donc tout vient de la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà observé le monde autour de vous et si vous essayez de faire les connexions, mais puisqu'on a perdu le langage de cette création, en fait, on ne fait plus ces connexions. Mais bon, le serpent aussi vient là de quelque part. Hein. On ne comprend pas comment trop ça s'est fait non plus. Mais donc ça veut dire aussi, dans le système évolutionniste, que une abeille, qu'est-ce que c'est une abeille? Une guêpe? Une fourmi? Une limace? Une araignée qui tisse? Si bien ces toiles, bien, ça veut dire inévitablement, à moins que quelqu'un ait donné un coup de baguette magique, mais ça ne rentre pas dans le système, ça veut dire que tous ces insectes, et la sauterelle, et la mante religieuse, et la chenille, et tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'ils ont le même ancêtre. Ok? Donc la limace et l'abeille, avec ses petites ailes, ont le même ancêtre. C'est vrai que ça, c'était pas dans mon livre, quoi. Donc, je répète, la fourmi, la limace, l'abeille, ils ont le même ancêtre. Ok ? La montre religieuse, et la sauterelle, et le ver de terre, ils ont le même ancêtre. Et plus je réfléchis à ces choses, plus je me rends compte aussi que dans la communauté scientifique, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont des doutes, mais ils ont du mal à le dire parce que ça n'est pas toujours socialement bien vu, et même quelquefois de plus en plus, ils risquent leur place, réellement. Il y a même des personnes qui ont perdu leur place, ou simplement qui ne vont pas progresser. Mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'on ne veut bien l'admettre. Et je crois qu'en général, les personnes ne réfléchissent pas, ou ils vont dire, bon, ben, c'est les scientifiques. D'accord ? C'est les scientifiques et ils ont sûrement la solution, quelque part. Mais tout cela vient, je crois, du fait qu'on a perdu le concept de Dieu. Et quand on a le concept d'un Dieu créateur qui a fait toutes choses et qui a créé toutes choses pour un but et qui a créé ces choses pour que ces choses le louent et qu'elles louent sa puissance et sa divinité, eh bien là, les choses deviennent plus claires. Et le langage de la création, c'est quoi ? C'est que tous ces êtres très complexes, très structurés, très uniques, sont là pour louer le Créateur et pour montrer qu'il y a une puissance incroyable qui est derrière ces choses. Et on peut regarder ce que Paul en dit dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et quand un être humain se penche, parce que ce n'est pas tout non plus, d'accord ? Parce qu'une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il y a aussi l'évolution des plantes. Donc une pâquerette et qu'une ananas. Quelque part, il y a dû y avoir une fougère ou une algue qui finalement, au fur et à mesure, s'est transformée en pâquerette, en coquelicot, en rose, en tout ce que vous voulez. Et puis même plus tard en arbre. Des ananas, des bananes, la noix de coco. On ne sait pas si c'est la banane qui est devenue noix de coco ou la noix de coco qui est devenue banane. Mais dans le processus, ça doit marcher comme ça, forcément, forcément, parce que c'est un processus évolutif. D'accord ? Donc la noix de coco, quelque part, vient de plus bas. Donc quelque part, sûrement, il y a le passage par la fleur ou l'algue ou quelque chose. Ok ? D'accord ? Mais donc, quand l'être humain se penche normalement sur la nature qu'il voit, il doit se dire, c'est incroyable. Il doit y avoir une puissance incroyable derrière tout ça. Quand je vois cette diversité dans la nature, une sauterelle, une fourmi, une abeille qui fait du miel, quand je vois cette araignée qui tisse sa toile, Je dois me dire, il y a quelque chose d'incroyable derrière tout ça. Il y a une puissance phénoménale. Parce que moi, être humain, même si je fais beaucoup de choses, je ne sais pas faire des toiles d'araignée. Je ne sais pas produire du miel. Et il y a toutes ces choses incroyables. Il y a ces crocodiles, ces lions ou autres. Et la diversité dans la nature, l'incroyable diversité, est là comme un témoignage de la puissance de Dieu. Et c'est ce langage de la création que nos sociétés et nous-mêmes, puisque nous évoluons dans ces sociétés, nous grandissons dans ces sociétés, ce langage de la création que nous avons perdu. Nous avons cessé, parce que quelque part on nous l'a interdit, quelque part on nous l'a interdit, d'une certaine manière bien, on nous a interdit de nous émerveiller devant toutes ces choses et de nous dire il y a un créateur derrière tout ça, c'est pas possible, il y a une puissance plus grande. Il y a une puissance plus grande. Et c'est pourtant ce qu'il y a. Il y a une puissance plus grande derrière tout ça. Il y a la gloire de Dieu. Là, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et l'être humain a perdu ce sens de l'observation, ce sens de la gloire de Dieu. Et pourtant, toutes ces choses le servent, et en dépit de l'incrédulité du monde, continuent à le servir, et bien souvent pour le bien de l'homme. Bien souvent pour le bien de l'homme, parfois aussi pour avertir l'homme. Pour avertir l'homme de son péché, pour mettre des limites à l'être humain et à sa folie. Mais la grandeur de Dieu est dans ces choses. Et je terminerai avec le verset 7, verset 6 et 7. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et ne les violera point. Et ça, il y a des lois extraordinaires dans la nature. Il y a des lois extraordinaires. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on... Bon, je ne suis pas un astronome, hein, mais qu'on peut envoyer des fusées dans l'espace et calculer qu'elles arriveront à tel endroit, à tel moment. Enfin, il y a des choses derrière tout ça. Il continue, « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux. » Qui exécutait ses ordres. Et même le feu et la grêle sont au service de Dieu. Et nous savons d'après la Bible qu'un jour, eh bien, toute cette création que l'être humain aurait dû louer, à travers laquelle il aurait dû voir son Créateur, eh bien, un jour cette création viendra aussi pour juger, pour avertir, parfois de manière extraordinaire. Mais aussi pour que l'être humain ait un dernier sursaut. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si Dieu fait toutes ces choses, ça n'est pas contre l'être humain. C'est l'être humain qui s'imagine que c'est contre lui. Mais c'est pour lui donner un dernier sursaut. Vous savez, c'est comme quand il y a quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, on essaye de faire le massage cardiaque, ou alors maintenant on a les systèmes, voilà, donner un choc pour le réveiller. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu veut faire. Et vous nous réveillez encore aujourd'hui.